Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omani kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Put your bad self. Say it louder.
I'm coming out.
Say it louder.
I'm coming out.
Look here. Some people say we got a lot of malice. Some say it's a lot of nerve. But I say we won't quit moving until we get what we deserve.
I'm Black and I'm Proud, ce sera un peu le leitmotiv de cette émission puisque nous sommes installés à la Cité de la Musique à Paris où se tient jusqu'au 24 août 2014 une exposition qui épouse parfaitement la thématique de l'épopée des musiques noires. Il s'agit de Great Black Music ou l'aventure artistique, historique et militante du peuple noir à travers les âges. Pour évoquer ces décennies de bouillonnement musical, nous avons fait appel à Emmanuel Parent, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, maître de conférences en musique à l'université de Rennes 2 en Bretagne, dans l'ouest de la France, et vous veillez à la bonne tenue historique et sociologique de cette exposition passionnante. Avant toute chose, parlons du titre. Qu'est-ce que la Great Black Music à vos yeux ?
La Great Black Music, le titre même fait référence à une époque, les années 60, qui est emblématique pour toute l'histoire des musiques noires, puisque c'est un terme, un concept qui a été forgé par un groupe d'avant-garde du jazz, l'Art Ensemble of Chicago, qui par là même voulait insister sur la grandeur de la tradition noire par-delà les appellations commerciales que la musique afro-américaine avait connues, le blues, le jazz, etc. La Great Black Music, c'était la grande tradition noire.
Est-ce qu'il n'est pas un peu réducteur de relier la Great Black Music au militantisme des Noirs américains au cœur des années 60 ?
Ben je crois qu'on ne réduit pas la Great Black Music à ce militantisme, mais on y fait référence comme un moment important de prise de conscience où musique et politique, c'est vrai, se sont rejoints. Mais ce lien entre musique et politique ne définit pas toutes les musiques noires. Elles sont diverses et elles ont différentes intentions. Mais c'est un moment où on l'a formulé de cette manière, en tout cas.
L'une des salles thématiques est consacrée aux Amériques. Cela veut-il dire que le continent américain tient un rôle déterminant dans l'épopée des musiques noires ?
Ben, si vous voulez, il est toujours très compliqué de définir ce qui fait l'essence des musiques noires, mais le parti pris dans cette exposition, c'est de considérer que les musiques noires, d'une certaine manière, naissent en Amérique et rejoignent petit à petit les autres parties du monde, notamment au travers de ce qu'on appelle l'Atlantique noire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'Afrique dans les musiques noires, bien évidemment, ce serait absurde d'essayer de le démontrer, mais que effectivement, ce premier geste naît peut-être dans les contre-coups de l'esclavage et de la colonisation, et puis au travers de circulation des artistes, des musiciens, des disques, eh bien l'Afrique, l'Europe et les Amériques se mettent à jouer et à danser au son de la black music.
À quand remonte le concept d'identité noire porté par les musiciens de jazz, de blues et de soul music?
L'identité noire en tant que motif de fierté, je crois que ça remonte peut-être au début du XXe siècle, même si on pourrait trouver des antécédents au XIXe. Je pense notamment au mouvement de la Renaissance de Harlem dans les années 20, où des artistes, des poètes, des musiciens, Langston Hughes pour les poètes, Duke Ellington pour les musiciens, ont commencé à avoir un renouveau de cette fierté noire, et notamment l'Afrique redevenait un motif de fierté après avoir longtemps été enfouie dans l'inconscient afro-américain.
Je vous propose, Emmanuel Parent, d'écouter une archive sonore qui remonte aux années 20. Il s'agit de la voix d'un orateur essentiel dans l'histoire de la communauté noire. Je parle de Marcus Garvey.
Pendant
citizens of Africa, I greet you in the name of the Universal Negro Improvement Association and African Communities League of the World. We love humanity. We desire peace. And anything the Universal Negro Improvement Association and I can do for the advancement of the cause of humanity and for the permanent establishment of peace, we shall be glad to do.
Enregistré a priori en 1920 à New York, c'était Marcus Garvey, personnalité majeure et orateur précieux qui accueillait ses frères soldats africains de retour d'Europe après la Première Guerre mondiale. Et on note qu'il ne dit pas « mes frères américains », mais « mes frères africains »,« fellow Africans ». Quelle lecture faites-vous de cette distinction, Emmanuel Parent ?
Marcus Garvey a un rôle considérable à cette époque-là. Je parlais tout à l'heure de la renaissance de Harlem, c'est le pendant intellectuel avant-gardiste. Mais Marcus Garvey, lui, il a fait quelque chose de nouveau, il a touché les masses. Il a touché les masses noires américaines, c'était un orateur antillais de talent, mais il a fait surtout, il a eu un impact considérable aux États-Unis où il faisait appel au nationalisme noir et à la fierté africaine. Et effectivement, il va troquer le nom de l'identité noire américaine pour celle d'une identité africaine. Il va dire, nous avons toujours été africains et il nous faut retrouver notre identité. Et ce discours va faire mouche et l'Universal Negro Improvement Association, son UNIA, son mouvement, va recueillir des millions de suffrages en l'espace de très peu d'années. Il va faire même très peur aux différents gouvernements britanniques, américains de l'époque et il va finir malheureusement dans l'exil et dans la prison, mais son mouvement aura eu un impact considérable. Et effectivement, c'est le fait de s'adresser aux militaires noirs américains qui reviennent de la Première Guerre mondiale comme fellow Africans, eh bien évidemment très lourd de sens à cette époque.
Cette volonté de se réapproprier la terre des ancêtres et ce besoin d'un retour sur le continent africain s'est manifesté dans le répertoire afro-américain à maintes reprises et notamment dans les Negro Spirituals et le Gospel, comme nous allons pouvoir nous en rendre compte avec cet enregistrement réalisé en mai 1964 à Atlanta, en Géorgie.
We're marching on to freedom land. We're marching on to freedom land. Cause our strength from day to day, as we walk the narrow way, we're going forward, we're going forward. One day we're going to be free. Oh, we're marching on.
Come on.
To freedom land.
Come on.
We're marching on to freedom land.
Cause our strength.
Cause our strength. From day to day.
As we walk the narrow way.
As we walk the narrow way.
We're going forward.
We're going forward.
We're going forward. One day we're going to be free.
One day.
Come on.
To freedom land. We're marching on to freedom land.
Oh, cause our strength from day to day. Oh, as we walk the narrow way. We're going forward. We're going forward. One day we're gonna be free.
One day.
Come on, everybody,
to freedom.
We're marching on.
We're marching on.
Because God has strength from day to day. Oh, as we walk the narrow way, we're going forward. We're going forward. One day we're going to be free.
One day.
We are marching on to freedom land. Nous marchons vers la terre de liberté. C'était Carlton Reese et le chœur de l'église baptiste d'Atlanta en mai 1964. Nous sommes à la Cité de la musique à Paris cette semaine pour évoquer la grande épopée des musiques noires à travers l'exposition Great Black Music en compagnie d'Emmanuel Parent, anthropologue et maître de conférences en musique à l'université Rennes 2. Est-ce que les croyances, les rites et codes africains ont résisté à la rencontre de l'homme blanc au fil des siècles? Quand on entend par exemple cet air religieux enregistré dans une église noire d'Atlanta, on perçoit davantage l'influence européenne catholique que l'ancestralité du peuple noir.
C'est une question qu'il est difficile de trancher. Qu'est-ce qui est resté de la spiritualité africaine dans les expressions musicales et religieuses afro-américaines? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la religion a été un des premiers lieux de recréation d'une culture. Le roi Jones disait que seuls les arts immatériels, la musique, la danse et la religion avaient survécu au passage du milieu. Et c'est vrai que sûrement dans les plantations, dans les nuits secrètes haïtiennes, eh bien, c'était dans le contexte de cérémonies religieuses que, au travers de la musique, tout est reparti d'une certaine manière. Alors, dans ce qu'on a entendu là, effectivement, l'hymnologie protestante a un grand rôle dans la recréation de la musique noire religieuse américaine. Il s'agit là d'un syncrétisme, de phénomène de créolisation, et d'une certaine manière, démêler ce qui viendrait de l'Europe et de l'Afrique finit par être un peu un jeu un peu vain, et surtout qui prive les Afro-Américains de leur potentiel de création. Et je préfère plutôt faire appel à la notion de chair à glissant de créolisation pour caractériser l'acte de création de toutes ces musiques.
Est-ce que le blues et la soul music, qui sont des musiques dites profanes, symbolisaient un refus d'endoctrinement religieux de la part de l'homme noir ?
Effectivement, le blues a souvent été décrit comme la musique du diable, opposée au gospel qui serait la musique du bon Dieu. Mais quand on regarde de façon un petit peu plus attentive les choses, comment elles se passaient à la fin du 19e et au début du 20e siècle, on se rend compte qu'en fait, il y avait beaucoup de circulation et que beaucoup de bluesmen sont devenus des prêcheurs, comme Skip James, par exemple. Effectivement, on a l'image de Robert Johnson qui a vendu son âme au diable, mais je crois que, d'une certaine manière, certains bluesmen étaient aussi proches de l'Église, même si dans leur paroles de chansons, ils pouvaient célébrer des valeurs contraires à la religion. Et puis, surtout, d'un point de vue musical, il y a une grande proximité. Et j'adore cet extrait de prêche du révérend Nix, qui s'appelle Black Diamond Express to Hell, qui date de la fin des années 20. Et on entend, en fait, c'est un vrai bluesman, voire même un rappeur, en fait. On croirait entendre Joey Starr ou Older T. Bastard qui apostrophe ses ouailles en disant « N'allez pas danser le samedi soir, car vous allez perdre votre âme. » Mais il le fait avec exactement les mêmes techniques musicales que ceux qui vont entendre le samedi soir sur les pistes de danse.
Vous parliez de Robert Johnson. Il existe une légende concernant ce bluesman qui aurait donc vendu son âme au diable, vous le disiez, en contrepartie d'une virtuosité à jouer le blues. Est-ce que là encore, la volonté de s'affranchir de la culture des colons européens n'est pas manifeste ?
Oui, alors là c'est ambigu parce que à la fois il y a cette volonté de la transgression et même la figure du gangster qui est présent avant d'être présent dans le rap, qui est présente dans le blues et dans plein de musique afro-américaine. La transgression vers le démon, vers le diable ou vers la violence peut être considérée comme une volonté de s'affranchir du monde des blancs. Et en même temps, dans cette histoire de Robert Johnson, c'est un vieux mythe de la sorcellerie aussi européenne, c'est-à-dire que en l'échange du mal, je vais recevoir une forme de connaissance. Et ça, c'est un mythe ancestral qui est aussi commun aux Africains que dans la vieille Europe.
Quoi qu'il en soit, Robert Johnson est entré dans l'épopée des musiques noires grâce à cette légende tenace, mais aussi grâce à sa version définitive du classique Sweet Home Chicago.
I'm 6 and 2 is 8, 8 and 2 is 10. I'm going to California, from better than a month away. Somebody will tell me that you need my help someday. Hey, hey, baby, don't you want to go? Hey, to the land of California, to my sweet home, Chicago.
Sweet Home Chicago, Robert Johnson en 1936, un titre qui a été redécouvert et revitalisé par les plus grands, de Buddy Guy à Eric Clapton en passant par Freddie King ou Ben Harper. On le disait en début d'émission, longtemps l'Afrique a été une terre fantasmée par les musiciens noirs américains. Est-ce que ce regard simpliste, voire grossier de l'Amérique envers l'Afrique a beaucoup évolué ?
Oui, je le crois. C'est vrai que au début, les Noirs américains ne connaissaient pas grand-chose de l'Afrique. Ils étaient très éloignés et ils n'ont plus finalement que le fantasmé. Un peu comme leurs contemporains européens, à l'époque du primitivisme et des arts nègres, fantasmaient d'une certaine manière aussi l'Afrique ancestrale, primitive, première. Et il fallait se rendre sur place pour découvrir la modernité aussi qui avait traversé l'Afrique à la même période. Mais je crois que la circulation des musiciens et la connaissance a avancé. Et depuis les années 60, les festivals des arts nègres à Dakar, le match Mohamed Ali Fraser,
voilà,
John Foreman, de nombreux contacts qui ont fait que je pense aussi au bluesman Taj Mahal qui a beaucoup enregistré avec les musiciens maliens, Farka Touré, etc.
Et notamment Bassekou Kouyaté récemment.
Et Bassekou Kouyaté, effectivement, autant d'enregistrements, autant de rencontres, autant d'échanges qui fait que aujourd'hui, je pense que les Américains connaissent mieux l'Afrique qu'il y a 100 ans. Ouais.
Sommes-nous, nous, Européens, plus au fait, de par notre histoire, notre proximité géographique, des réalités culturelles africaines ?
D'une certaine manière, oui, puisque l'Europe était géographiquement plus proche de l'Afrique, et l'immigration africaine en Europe est peut-être un peu plus ancienne que l'immigration africaine aux États-Unis ou en Amérique, qui aujourd'hui est assez importante, il faut le souligner. À New York, on parle notamment français, à Harlem, et c'est des Africains de l'Ouest, de l'Afrique francophone, qui s'y trouvent. Donc on peut imaginer effectivement que les Européens avaient une vision un peu moins fantasmée, justement, qu'un Duke Ellington qui, dans les années 20, composait des odes à l'Afrique sans trop savoir ce que ça pouvait représenter.
Il est allé très tard en Afrique, dans les années 60 seulement.
Oui, je crois qu'il ne s'y est rendu qu'à partir des années 60, et notamment le premier festival mondial des arts nègres, organisé par Sangor à Dakar en 66. Il était présent et il a pu voir de ses yeux ce que représentait l'Afrique. Mais auparavant, non, ce n'était plus une connaissance intellectuel que véritable.
Il y a une histoire aussi que vous racontez dans le catalogue de l'exposition, c'est la rencontre de l'Afrique par Lester Bowie, le fameux trompettiste de l'Art Ensemble of Chicago, qui découvre Fela et l'Afrique en se rendant sur le continent africain.
Oui, tout à fait. Lester Bowie, je crois que c'est au cours d'une tournée en Europe en 1977, décide de marquer une pause dans sa carrière et il réunit le peu d'argent qui lui reste pour un aller simple à Lagos. Alors pourquoi Lagos ? Pourquoi le Nigeria ? Peut-être tout simplement parce que c'est un pays où on parle anglais, il se dit qu'il se sentira moins perdu car il connaît finalement assez peu le continent africain. C'est la première fois qu'il s'y rend. Et il se trouve qu'il va à Lagos, là où bat le cœur d'un courant musical extrêmement fécond à cette époque-là, l'afrobeat, mais sans connaître Fela ni aucun autre musicien africain contemporain. Et il faudra un taximan qui le voit en découvrant qu'il est musicien, en lui disant il faut absolument que tu rencontres Fela. Et il arrive à la Calcutta République, dans le shrine,
le fief
de Fela. Et là, va avoir rencontre avec le maître qui, je crois, n'est à peine réveillé. Évidemment, selon ses habitudes, apparemment, il se réveillait très tard, vers 16h, pour rencontrer Fela. Et à son grand étonnement, Fela, lui, le connaît. Évidemment, Fela Kuti a fait ses classes, il connaît ses classiques, et il sait l'importance de l'Art Ensemble de Chicago au sein de la constellation du free jazz. On imagine le choc qu'a dû ressentir Lester Bowie, savoir qu'il avait influencé des musiciens qu'il ne connaissait pas et qui, en retour, le connaissaient parfaitement. Mais je crois que la première chose qu'ils se sont dit, c'est musicalement. Ils ont commencé à jouer trompette, saxophone, quelques mesures de blues pour échanger une complexité. Et Fela a tout de suite ordonné qu'on aille chercher les affaires de Lester Bowie pour qu'il s'installe à demeure. Et il est resté plusieurs mois à Lagos. Et on imagine la qualité des échanges musicaux, intellectuels, philosophiques que les deux grands musiciens ont pu avoir.
L'une des propositions que vous faites à travers cette exposition Great Black Music où nous sommes installés cette semaine, c'est le Global Mix. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, en 2014, les barrières raciales, culturelles, identitaires sont tombées et permettent des échanges musicaux plus naturels et spontanés ?
Je crois que la musique est toujours un langage spontané pour les musiciens. Justement, on parlait de Fela et de Lester Bowie. Tout de suite, les grands musiciens peuvent s'entendre et discuter. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un progrès en ce sens. Il y a sûrement beaucoup plus de circulation de la musique. Évidemment, la mondialisation fait que les échanges de toutes sortes s'accélèrent, et donc y compris les échanges musicaux. Et quant aux frontières raciales, eh bien, je ne voudrais pas faire un diagnostic uniforme, mais je crois que la question raciale, même si elle progresse au fur et à mesure du temps, hein, le sociologue américain W.E.B. Du Bois en 1903 faisait cette prophétie, hein, le 20e siècle sera la ligne de partage des couleurs, hein, c'est, et en même temps il avait raison, hein, puisque ça a été le siècle des décolonisations, etc., où la question raciale est devenue majeure, alors qu'on pensait qu'elle était finalement périphérique à notre modernité. Que sera le 21e siècle? Force est de constater que les inégalités raciales, les fractures sociales entre le Nord et le Sud persistent, et je ne voudrais pas avoir de vision angélique, même si évidemment j'espère que la connaissance mutuelle et les forces malgré toute la démocratie, permettent une meilleure compréhension réciproque.
Peut-on décréter ici, au cœur de cette exposition, que la musique est le vecteur de l'entente et du respect universel?
J'aimerais l'affirmer, je crois que toutes les âmes de bonne volonté souhaitent l'affirmer. Effectivement, la musique, en tout cas, par exemple, prenons l'exemple de la ségrégation, la musique était la façon de transgresser des frontières raciales qui étaient imperméables au niveau politique ou au niveau social. Et Duke Ellington disait, par exemple, ce que je ne peux dire avec des mots, je vais le dire avec la musique. Et je crois que la musique est le médium par excellence de la communication, de l'échange, et elle a pu faire beaucoup pour l'échange entre les peuples, et y compris, je pense que l'histoire des musiques noires a contribué au progrès politique et à l'émancipation.
La plus belle preuve de ce rapprochement culturel majeur que provoquent les musiques noires depuis des siècles, c'est ce clin d'œil afro-européen à un classique afro-américain. Voici Fulani Kuchiman, en référence à Uchi Kuchiman de Muddy Waters, par Jules De Camara de Gambie et Justin Adams de Grande-Bretagne. Jules De Camara et Justin Adams, un Gambien et un Anglais, dans une révérence à un Américain, Muddy Waters, à travers ce titre Fulani Kuchiman, qui referme ainsi avec beauté cette première mission que nous réalisions à la Cité de la Musique à Paris dans le cadre de l'exposition Great Black Music. Inutile de vous dire que nous reviendrons ici même au fil des semaines, tant le propos de cette exposition nous paraît essentiel, pertinent et légitime. Emmanuel Parent, quel conseil donneriez-vous à un visiteur pour profiter pleinement de cette exposition ?
Je pense que je lui dirai de revenir plusieurs fois, tout simplement parce que cette exposition, évidemment, on la trouve géniale. Et puis surtout, elle a énormément de contenu. Je crois qu'il y a 11 heures de documentaire mis bout à bout, donc on ne peut que en voir une partie, un parcours. Et je le dis puisque lors de ses premières versions à Dakar, à La Réunion, les témoignages des gens étaient justement, ils voulaient revenir et ils revenaient de fait pour en profiter au maximum lorsqu'on en a la possibilité. Et je crois qu'il y a différentes façons de la visiter, à la fois pour s'enrichir comme un immense documentaire dans lequel on peut rester des heures, mais aussi cette exposition n'est pas que pédagogique, n'est pas que didactique, n'est pas que encyclopédique, mais elle est aussi une immersion sensorielle, un plaisir, parce que ces musiques noires américaines et africaines invitent à la danse, invitent à la fête, et cette immersion totale proposé par le dispositif très particulier audiovisuel avec smartphone et casque invite à cela, et notamment ces dernières salles. Je conseillerais aux visiteurs de venir s'il a des enfants, parce que Global Mix propose 3 cabines de danse, salsa, hip-hop et disco, où là on lâche tout et puis on danse et on s'amuse et on profite en famille.
Et on peut même faire des graffitis.
On peut même faire des graffitis avec, c'est un des nombreuses attractions ou dispositifs audiovisuels de l'expo, où on graffe avec une bombe virtuelle, des véritables graphes, et on se prend pour un B-Boys de l'époque dorée du hip-hop dans le Bronx à la fin des années 70.
Vous avez essayé vous-même ?
Oui, bien sûr, je suis un grand graffeur, Joe, faudrait que vous veniez me voir, mais là, c'est plutôt dans mon ghetto à Nantes.
Ça marche. Merci Emmanuel Parent de vos lumières et de votre science.
Merci à vous, à bientôt.
Merci également à Manu Pochez et Nathalie Laporte pour leurs efforts conjoints en régie finale. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Et si vous êtes parisien, passez donc à la Cité de la Musique. Dans 30 secondes, le journal.